Gloire à Dieu, nous allons continuer. Nous allons continuer notre séminaire intitulé L'enjeu missionnaire. Le but de ce séminaire, comme on a expliqué hier, c'est de montrer le plan de Dieu depuis le départ, depuis le moment où l'homme a péché et a tiré la ruine sur lui. Dieu a résolu de sauver les humains. Et hier, nous avons vu qu'il a préparé tout un peuple. Il a travaillé tout un peuple, le peuple d'Israël, pour amener tous les humains au salut, pour montrer, au fait, à tous les humains qui était le véritable Dieu. C'est beaucoup de travail, bien-aimé. C'est beaucoup de travail. Mais je voudrais que chacun de nous réalise que tout ce travail immense que Dieu a déployé avec un peuple, c'est pour finalement se révéler à chacun d'entre nous. Donc toute cette débauche d'énergie avec un peuple, les sortir de l'Égypte, les encadrer, avoir des problèmes souvent avec eux, tout ça n'était qu'une construction pour finalement venir s'adresser à chacun d'entre nous. Donc nous devons prendre d'autant plus au sérieux le message de l'Évangile. C'est un message qui vient de loin. Donc on avait dit dans Genèse 3:15, Dieu a promis qu'il viendra à la postérité de la femme, un fils d'une femme qui viendra régler le compte du péché et du diable pour sauver l'homme. Parce que depuis que l'homme a péché dans Genèse 3, l'homme est dans la désolation, dans la souffrance, dans les guerres, dans les maladies et surtout dans la mort. La mort, bien-aimé, c'est quelque chose d'horrible. La mort. Si quelqu'un commence à accepter la mort, c'est qu'il y a une certaine folie qui l'a saisie. La mort, on ne peut pas l'accepter. Ça nous sépare des gens qu'on aime beaucoup. La mort, c'est un synonyme de destruction. Ce n'est pas beau. Et ça, c'était la finalité de tous les hommes, depuis Genèse 3. Alors Dieu a promis qu'il enverra quelqu'un qui viendra régler cette question-là. Mais il fallait préparer la venue de cette personne en commençant d'abord par utiliser un peuple pour interpeller les autres nations. Israël a été utilisé pour interpeller les autres nations. Et même les guerres qu'Israël a eu à combattre, a eu à mener, avait pour but de réveiller les autres peuples sur le fait que lorsqu'un si petit peuple arrive à triompher des grands peuples, c'est la preuve qu'il a un grand Dieu. C'était ça le but. Israël devait montrer aux autres qui est Dieu, la lumière divine. On a dit hier qu'il y a, il y a deux enjeux sur cette terre. Le premier enjeu, c'est la rédemption. Comment l'homme peut-il être sauvé? Ça a été réglé par Jésus à la croix. Il a donné sa vie, il a payé pour les péchés de tous les hommes. Il a réglé ça. C'est ça le sujet de notre séminaire de ce jour. Jésus a réglé ça. Mais le deuxième enjeu qui est l'intitulé de tout notre séminaire, c'est l'annonce de cette rédemption. Dire aux gens qu'ils ne sont plus obligés de subir la mort, de subir le péché, de subir le mal, parce qu'il y a un vainqueur qui a vaincu pour eux. C'est ça l'annonce de l'Évangile. Ce sont les deux piliers de l'humanité. En dehors de ça, tout le reste n'est que secondaire, parce que Dieu a préparé une terre nouvelle, un ciel nouveau pour ceux qui seront sauvés. Et ceux qui ne seront pas sauvés iront dans le feu éternel. Donc en réalité, nous ne vivons qu'une parenthèse terrestre. La vraie vie commence après la fin du monde. C'est pourquoi nous exhortons chacun à prendre au sérieux le salut qui lui arrive. Ça t'arrive après des milliers d'années de travail. Donc Dieu a utilisé un peuple. On a vu ça hier, comment Dieu a utilisé les descendants d'Abraham pour éclairer les autres nations, pour leur dire le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, il y a un souci. C'est que même si Israël pouvait éclairer les autres nations, même si lui-même avait le véritable Dieu, il y avait le problème de la rédemption. Comment, d'une manière concrète, sauver les gens? Ce n'était pas possible. Alors, en attendant, Dieu a mis un système de sacrifice d'animaux qui le permettait de rester au milieu des enfants d'Israël, malgré le fait qu'ils étaient imparfaits. Mais comme nous disent les Écritures, ce système-là ne pouvait pas sauver un humain, parce que on faisait des sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux ne peuvent pas remplacer un homme. Entre un homme et un animal, l'écart est trop grand pour que la mort d'un animal remplace celle d'un homme. Qu'est-ce que vous avez remarqué hier dans le texte qu'on a lu? C'est que Abraham s'apprêtait à sacrifier qui? À sacrifier Isaac. Mais on lui a dit d'arrêter. Ça a juste permis cette scène à Dieu de réaliser combien Abraham l'aimait, c'est tout. Mais le sacrifice d'Isaac n'allait pas pouvoir sauver les humains. Parce qu'Isaac lui-même était un humain, c'était un homme pécheur. C'est pourquoi Dieu arrête aussi ce sacrifice-là, parce que ça allait être inutile. En laissant jusqu'au point où Abraham voulait tuer son fils, c'était juste pour démontrer l'attachement d'Abraham envers lui, envers Dieu, la foi d'Abraham envers Dieu. Mais le sacrifice d'Isaac n'allait pas pouvoir sauver les humains, parce qu'Isaac lui-même était pécheur. Il fallait le sacrifice d'un homme parfait, le serviteur parfait de l'Éternel. Et c'est son fils qui a décidé de venir. Oui, Israël a été utilisé comme peuple, en quelque sorte missionnaire. Il a échoué, on a dit hier, parce qu'il a fini par s'accaparer Dieu. Mais ça ne pouvait pas non plus réussir totalement, parce qu'il manquait la rédemption véritable. C'est-à-dire, comment pardonner les humains? Les sacrifices d'animaux d'Israël ne pouvaient pas obtenir cela. Ni les sacrifices d'un homme comme Isaac ne pouvaient pas obtenir cela. Il fallait le sacrifice d'un homme qui représente tous les humains et que lui-même soit parfait. Ainsi, un échange pouvait se faire entre cet homme-là et chaque humain. C'est pourquoi, dans Psaume 40, c'est écrit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais moi, tu m'as formé un corps pour venir me donner en sacrifice, pour faire ta volonté. » Donc Jésus, voyant cette impossibilité de salut pour les humains, il s'est décidé lui-même à venir se donner, prendre le péché des humains et être crucifié à la place de tous les humains. Voilà, nous commençons par Jean 3, 22 à 30, qui est une introduction par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Hier, c'était Abraham. Donc, comment Dieu a utilisé Abraham, en quelque sorte, comme un messager. Hein? Quand on dit Abraham, c'est-à-dire les descendants d'Abraham et lui-même. Quand on dit Abraham, ça veut dire un message clair et net. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Voilà, c'était clair et net. Et là, aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Et nous sommes obligés de parler en même temps de la rédemption, même si le but de notre séminaire, c'est le côté missionnaire, mais il n'y a pas de mission sans la rédemption. C'est pourquoi nous parlons de Jésus, c'est écrit dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, donc en parlant de Jésus, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui, à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Alors Jean-Baptiste est sollicité par des gens, par ses disciples qui lui disent, « Mais on voit Jésus que toi tu as présenté. Et il est en train de faire le même boulot que toi. Il baptise, il parle de Dieu. » Jean dit, « Mais moi je vous avais prévenu que moi je ne fais que le précéder. Lui, c'est l'époux, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Moi, je ne suis qu'un prophète qu'on a envoyé avant pour annoncer sa venue. » Jean-Baptiste représente quoi? Il représente Israël. Israël est comme un prophète envoyé avant pour dire aux gens, bientôt le Sauveur viendra, le Messie viendra. Israël est un prophète pour dire aux gens, vous êtes dans le péché. Donc Dieu utilisait Israël dans les commandements qu'il avait donnés à Israël. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'était un moyen pour démontrer le péché de tous les humains, en particulier des autres nations qui étaient encore dans l'idolâtrie et toutes sortes de péchés abominables, faire passer les enfants par le feu, la magie et toutes sortes de choses. Dieu utilisait ce peuple brillant par sa lumière pour montrer aux gens leur péché. Et le prophète Jean-Baptiste a été utilisé de la même manière pour montrer aux gens leur péché. Il faisait le baptême. Quel baptême? Il faisait le baptême de la repentance, afin que les gens se repentent de leurs péchés. Mais lui-même, il dit, « Mais moi, je ne peux pas sauver les gens. » Parce qu'il dit dans un autre passage, « Moi, je vous annonce la repentance. Je vous dis que vous tous, les humains, vous êtes perdus, vous avez le péché. » Et celui qui reconnaît ça, qui vient de se faire baptiser. Mais il dit, « Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Lui, il va vous transformer réellement. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux que vous montrer le problème que vous avez. » Israël était utilisé de cette manière-là. À travers Israël, Dieu montrait aux autres peuples le problème qu'ils avaient d'adorer les faux dieux, d'adorer les statues, de tuer leurs enfants, de vivre dans la luxure. Voilà, Israël servait à montrer à tous les peuples leurs péchés. Mais Jésus, quand il vient, Jean-Baptiste dit, lui, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. C'est lui l'époux, c'est lui qui vient véritablement sauver. Voilà, Dieu, après avoir utilisé Abraham et ses descendants, maintenant, il passe par son propre fils. Jean-Baptiste l'a précédé pour nous dire à nous tous, nous sommes pécheurs. Quelqu'un, vous savez pourquoi je fais cette introduction-là? Parce que le vrai problème, c'est le problème du péché. Que personne ne nous trompe là-dessus. Genèse 3, c'est le problème du péché. C'est dans Genèse 3 que l'homme et la femme pêchent. Et le Seigneur promet qu'il enverra quelqu'un pour régler cette affaire-là. Donc, avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste est envoyé pour dire aux gens, Il est en train de venir quelqu'un pour régler votre problème de péché, mais vous devez d'abord reconnaître votre péché. Vous devez reconnaître votre problème. Vous voyez, bien aimé, à partir de ce raisonnement-là, ça nous montre qu'un prédicateur d'évangile ne peut pas passer outre parler du problème du péché, parce que c'est ça le problème. C'est ça qui fait que Dieu décide d'envoyer son Fils. C'est le problème du péché. Le péché détruit, il pourrit. Même s'il peut avoir un goût de bon gâteau, il y a un poison dedans. Et avant que Jésus ne vienne, il fallait que Jean-Baptiste vienne pour dire aux gens pourquoi ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus à cause de leur péché. Donc les gens venaient en grand nombre pour se faire baptiser, dire « Moi je reconnais mes torts, je reconnais mes péchés, je reconnais. » Jean disait « Allez, tu plonges dans l'eau, tu plonges dans l'eau. » Tous ceux qui reconnaissaient leur péché étaient baptisés. Mais lui-même, il a dit, je vous annonce en même temps quelqu'un qui doit venir. Lui, il vous enlèvera le péché et vous donnera une vie nouvelle. Ça, c'est Jésus. Voilà le processus. Et Jésus est pour nous le plus grand missionnaire de tous les temps. Aujourd'hui, nous parlons de la mission. Que l'un d'entre nous se déplace, aille dans une autre ville, aille dans un autre pays, ou se mette carrément à faire le travail dans les rues, ou par une autre manière, mais annoncer l'évangile. Mais Jésus a fait le plus fort. Il a quitté le ciel, là où il était le prince, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il a quitté le ciel pour venir en homme, avec toutes les limitations de l'être humain, tout ça pour nous sauver. Quand on réalise ça, ça fait mal. Et on comprend davantage des versets du genre « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume. » Parce qu'aujourd'hui, beaucoup font des problèmes de chichi pour servir Dieu. Ah, mais il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui, cela qui ne va pas. Mais Jésus, lui, l'a abandonné le royaume des cieux. Il était là-bas en roi. Mais il vient en simple homme, même un homme sans maison. Il vient ainsi jusqu'à la croix, être crucifié à notre place. Alors quand je pense à ce processus-là, je dis, mais qui je suis pour refuser la mission divine? On est fou, bien-aimé, on est fou. En comparaison avec le grand missionnaire de tous les temps, qui quitte le ciel, qui vient sur terre, participer à la faim, à la fatigue, à l'injustice, subir l'injustice, subir les coups. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si, bien-aimé, on te demandait de te transformer en crapaud pour aller sauver les crapauds et aller dans les mares. Est-ce que tu vas accepter ça? Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand on comprend ces choses, on prend au sérieux Jésus. Jésus est le Rédempteur. Il a été envoyé pour prendre nos péchés à la croix, être crucifié, afin que nous soyons sauvés. C'est ça qu'on doit retenir fortement du Seigneur. Nous allons lire Ésaïe 53, qui parle de son acte. Dans Ésaïe 53, il est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà la description de l'œuvre de Jésus-Christ, clairement donnée là. Il a été méprisé, abandonné, il a souffert en portant notre péché. C'est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé. Ce qu'Israël ne pouvait pas apporter, ce que Jean-Baptiste ne pouvait pas apporter, Jésus l'apporte, la rédemption. Il apporte le moyen par lequel toi, tu peux être sauvé. Vous savez, depuis que Jésus maintenant est mort à la croix, quiconque croit en Jésus, Dieu le considère comme innocent, juste. C'est extraordinaire. Oui, tu es innocent. Pourquoi tu es innocent? Parce que tous tes péchés, Jésus les a portés à la croix. Mais comment on peut refuser un si grand salut, comme a dit notre frère Paul? Tel que nous sommes là, chacun sait qu'il n'est pas innocent. On sait qu'on n'est pas innocent. Mais imaginez qu'on arrive au jugement dernier, tu arrives à la porte du ciel, on te dit, entre dans la joie de ton maître, innocent. On t'appelle innocent. Toi-même, tu vas dire à l'ange qui est là, mais c'est entre nous, je ne suis pas innocent. Comme dernièrement, j'avais fait un test d'informatique pour une formation. J'ai réussi, pourtant je ne connais pas la chose. J'ai avoué à la personne qui a fait le test, j'ai réussi par hasard, parce que moi je ne connais pas tout ce que vous m'avez posé comme question. Donc toi-même en toi, tu sais que tu n'es pas innocent. Il y a un problème, tu sais. Mais quel étonnement, l'ange qui décide, il te dit tu es innocent. D'où cela vient, il te dira, parce que Jésus a pris ça à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. C'est important que chacun comprenne c'est quoi la bonne nouvelle pour pouvoir en parler. Si tu ne comprends pas ça, tu crois que c'est juste comme ça, bon, crois en Jésus, tu es sauvé. Mais non, il faut réaliser, tu es sauvé comment? Tu es qui maintenant? Tu es innocent. Parce qu'il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est lui qui les a pris. Donc quand Dieu te regarde, il te regarde comme un innocent. Quand tu as Jésus en toi. C'est ça la rédemption. Israël ne pouvait pas amener ça. Jean-Baptiste ne pouvait pas amener ça. Ésaïe 53 nous dit, c'est le Fils de Dieu seul qui pouvait être notre rédempteur parce que lui seul était sans péché. Un autre pécheur ne peut pas sauver un autre. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Seul celui qui est sans péché peut porter le péché des autres. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et quand on saisit ça, on a envie de dire ça à tout le monde. Comme on chante, Everybody ought to know. Tout le monde devrait savoir cette nouvelle. Qui n'a pas besoin d'être esclave du péché, esclave de Satan, parce que Jésus a réglé cette affaire-là. Il est venu avec la rédemption pour régler. Nous allons lire un texte merveilleux dans Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2 à partir du verset 25. Il est écrit ceci, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Voilà un juif qui reçoit l'avertissement. « Tu ne vas pas mourir. » Tu verras le Messie. Quelle joie ça devait être pour lui. Parce qu'avec le temps, les Juifs avaient bien compris que c'est le Messie qui viendra régler leurs problèmes. Ceux qui restaient dans l'orgueil, c'était les gens qui contrôlaient le peuple. Mais les vrais de Dieu qui étaient au milieu d'eux savaient qu'ils vivaient qu'une transition et que seul le Messie viendra régler les choses. Ils étaient dans l'attente de le voir. Et quand Siméon devient vieux, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Toi, tu verras le Messie. Il est écrit dans la suite, verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient leur petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut, vous entendez, hein? Attendez, écoutez, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ça a été préparé devant tous les peuples comment? Depuis Abraham. Ce salut-là est préparé devant tous les peuples. Tous les peuples pouvaient voir à travers Abraham et ses descendants qui était le véritable Dieu. Ils étaient observateurs de ça. Ils regardaient ce peuple-là, le peuple hébreu, qui était spécial par ses commandements, par ses lois, par son Dieu. Le salut a été préparé devant tous ces gens-là. Ils connaissaient, la plupart de tous ces peuples connaissaient la loi de Moïse. Aujourd'hui, tous les codes du droit ont été élaborés par inspiration des 10 commandements. Le salut a été préparé devant tout le peuple. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Amen. Lumière pour éclairer les nations. Celui qui vient, Jésus, est la lumière pour éclairer toutes les nations. Ce n'est pas qu'Israël. Ça, c'est un juif qui parle, Siméon. Lumière pour éclairer toutes les nations, pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Parce que, pourquoi il est la gloire d'Israël? Parce qu'il sort d'Israël. Qu'on le veuille ou pas, notre salut est lié à Israël. C'est lié parce que ça a été préparé à travers Israël, à travers les descendants d'Abraham, jusqu'à arriver à Christ. C'est lié. Donc c'est pourquoi Jésus est la gloire d'Israël. Vous savez, quand vous allez en Israël, la majorité de gens que vous allez voir là-bas, en visite, ils le font à cause de Jésus. Ils ne viennent pas visiter Israël pour Israël. La majorité, je dis bien. Il y a un petit nombre qui vient visiter à cause de la mosquée, un petit nombre qui vient visiter, hein, un petit nombre de juifs, qui vient visiter aussi à cause d'Israël. Mais quand on compare avec le nombre de ceux qui viennent visiter à cause de Jésus, il n'y a pas photo, il n'y a pas discussion. Il est la gloire d'Israël. Beaucoup visitent Israël à cause du fait que c'est la terre de préparation du Messie. Gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Voilà les évangélistes, donc les pionniers. Elle arrive, elle reçoit par le Saint-Esprit que l'enfant qui est là, c'est le Messie. Et elle commence à en parler, le Messie est arrivé. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle, nous, à faire ce travail-là. Mais Jésus, que je présente là, lui, il est celui qui accomplit la rédemption et en même temps, celui qui annonce cette rédemption par sa vie et par la formation des disciples. Il veut que les gens sachent qu'il est mort à la croix pour eux et que cette annonce soit donnée à tous les humains. Je répète, Israël n'a pas pu faire la rédemption, ni Jean-Baptiste. Jésus fait la rédemption. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, tu seras libéré de tes chaînes. Tu peux le dire avec certitude, parce qu'à la croix, Jésus l'a fait. Dans Jean 19, 30, c'est écrit, « Tout est accompli, il a vraiment fait. » Et Siméon était dans la joie de le voir, le Messie, le futur crucifié, le sauveur de l'humanité et la gloire, la lumière pour les nations et la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Voilà Jésus qui vient ainsi, après des milliers d'années de préparation à travers Israël, il vient accomplir la rédemption, mourir à la croix pour nos péchés, afin de nous donner une nouvelle vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il mérite qu'on parle de lui. Ce qu'il a fait est exceptionnel, quitter le ciel pour venir nous sauver sur la terre, une terre remplie de saleté et de péché, c'est exceptionnel. En même temps, ça nous parle. Qu'est-ce que toi tu peux quitter qui dépasse ce que Jésus a quitté? Aujourd'hui, quand on dit à certains jeunes, arrêtez d'écouter la musique du monde, c'est comme si on leur demandait de boire 5 tonneaux d'eau. Mais qu'est-ce que toi tu peux quitter qui soit comparable à ce que Jésus a quitté au ciel? On peut te dire, par le Saint-Esprit, de t'éloigner de telle fréquentation, parce que cette fréquentation est en train de te polluer, mais on nous fait toujours des problèmes. Ah, on vous exagère. Mais bien-aimé, qu'est-ce que toi tu peux quitter qui dépasse ce que Jésus-Christ a quitté? Rien du tout. Inspirons-nous de cela pour comprendre la valeur de notre salut. Jésus a tout quitté pour venir nous sauver. Nous clôturons avec le passage de Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Luc, pardon, 24, 36 à 49. Luc 24, 36 à 49. Il est écrit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Bien-aimés, les disciples viennent de vivre la crucifixion de Jésus. Jésus est crucifié, il est enterré. Pourtant, il les avait prévenus qu'il devait être crucifié. Comme on a lu dans Ésaïe 53, il devait mourir pour nos péchés. Il les avait prévenus, je dois être crucifié parce que je prends vos péchés. Je dois mourir pour vos péchés, pour les péchés de l'humanité, mais je ressusciterai le troisième jour. C'était quelque chose qui les dépassait. Comment quelqu'un peut mourir et revenir à la vie? Et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et les jours qui sont venus par la suite, il est venu apparaître à ses amis. Et ils sont étonnés. Ils pensent peut-être que c'est un fantôme, c'est un esprit. Il dit non, non, je ne suis pas un esprit. Je suis ressuscité, j'ai un corps. C'est ça la différence entre esprit et résurrection. C'est notre corps qui va ressusciter en un autre corps. On ne va pas devenir une âme, on reste une âme comme ça. Non, il y a un nouveau corps que nous recevons à la résurrection. C'est pourquoi, bien-aimé, pourquoi tu veux servir un corps qui te trahira à la fin? Notre corps pourrira. Vaut mieux bâtir les choses par rapport au corps céleste à venir. Et ses disciples étaient dans la désolation. Aujourd'hui, bien-aimés, nous aussi, nous sommes dans la désolation. Dans la désolation de voir le péché sévir, de voir le mal dominer, de voir les hommes renier Dieu, de voir les hommes refuser de reconnaître que Dieu existe. Ça fait mal. Le monde est rempli de méchanceté. C'est la désolation. Mais il y a un espoir. Il y a une solution. Et eux qui étaient dans la désolation voient paraître le ressuscité. Et ils n'y croyaient pas trop. Ils étaient dans la joie de le voir. Mais bon, Jésus dit, amenez-moi quelque chose à manger. Il est écrit, ils lui présentèrent du poisson, il en prit et il en mangea devant eux. Donc il leur a montré que son corps était nouveau, il avait un corps, il est revenu de la mort. Bien-aimé, c'est ça notre bonne nouvelle. La rédemption, ce n'est pas seulement mourir à la croix pour notre péché, mais il est ressuscité pour donner une nouvelle vie à tous ceux qui croient. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que, bien-aimé, vous avez déjà vu quelqu'un en manque de drogue, en manque de cocaïne, en manque d'héroïne, comment il tremble, comment il crie? C'est horrible. Ou certaines personnes qui ont besoin de tuer des animaux, des chats, des chiens, pour se sentir bien. C'est horrible. Ces gens-là, ils veulent, quand ils ont tué, ils sont dégoûtés, mais après ils recommencent encore. Et nous sommes dans la désolation par rapport à tout ça. Tu es peut-être découragé par rapport à ton état spirituel. Mais Jésus dit, regardez, je suis ressuscité. Donc c'est possible pour vous tous. Vous pouvez recevoir une nouvelle vie. Vous pouvez ressusciter. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi les premiers chrétiens disaient quoi? Quand ils se rencontraient, le premier disait, le Seigneur est ressuscité. L'autre répondait, il est vraiment ressuscité. La désolation ne peut plus continuer. Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est ça la rédemption de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ces Écritures-là que je viens de vous lire dans Isaïe 53, Jésus leur rappelle ça et dit, mais ce que vous vivez avec moi, c'est déjà écrit, ça a été déjà préparé avec Israël. Je suis l'accomplissement. C'est pourquoi à la croix, il dit, tout est accompli. Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. La suite maintenant nous concerne. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus leur dit, moi, je suis le rédempteur, le ressuscité. J'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort. Désormais, les humains n'ont plus besoin de continuer sous l'esclavage du péché, de la mort, de la colère, de la méchanceté, de la chair. Maintenant, une nouvelle vie est possible. Désormais, en mon nom, les gens vont aller annoncer la repentance. Le vrai problème, c'est Genèse 3, souvenez-vous, le péché de l'homme. Maintenant, des gens vont aller dire aux autres, notre problème, le problème de l'humanité de Genèse 3 a été réglé. Voilà le sujet d'aujourd'hui. C'est que Jésus est le Rédempteur. Il est venu régler le problème de Genèse 3. Désormais, il dit, il y a des gens qui vont aller dire aux autres, vous n'êtes plus obligés de continuer sous l'esclavage de Genèse 3. Venez à Christ et vous êtes délivrés de vos chaînes. Vous devenez une nouvelle personne. Mais il faut que vous reconnaissiez d'abord vos péchés. Il faut que vous reconnaissiez que ce n'est pas bon. Il faut que vous acceptiez que ce n'est pas bon le péché. Vous acceptiez que ça vous détruit et vous cherchiez à devenir une nouvelle personne. Là, en croyant en Jésus, vous recevez cela. C'est ça qui va être l'objet de notre prédication demain. Le verset 47 est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On va en parler demain. Aujourd'hui, nous disons à chacun, Jésus est le Rédempteur. Il a accompli la rédemption et il s'est présenté lui-même comme étant le salut de l'humanité. Amen.